Alignée, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Alignée, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leur client idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Ça va?
Oui, super, et toi?
Ouais, très bien. Bah, merci d'avoir accepté de passer au micro d'Alignée. Je suis hyper contente que tu sois là.
Bah, merci à toi de m'avoir invitée surtout, et moi je suis aussi ravie d'être là, donc c'est top.
Trop bien. Alors Delphine, tu as créé Studio Hippo, c'est un studio de communication visuelle pour les projets kid-friendly engagés. Moi, ça fait un moment que je regarde ce que tu fais, donc je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui pour nous en dire plus sur la genèse et les coulisses de Studio Hippo. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter avec tes mots. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et surtout ce qui t'anime?
Oui, alors moi, je m'appelle Delphine Meignier. Du coup, ça fait 11 ans maintenant que je suis graphiste. Et aujourd'hui, du coup, je suis directrice artistique et avec Studio Hippo, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés à construire et développer une image de marque qui fasse sens, que ce soit sur leur marché et auprès de leur cible. Et ma particularité, du coup, comme tu l'as dit, c'est que j'accompagne les marques qui évoluent dans le secteur enfant, bébé, maternité. Et l'idée, à travers ça, c'est vraiment de défendre au travers du studio des projets kids et family friendly, des projets qui ont une pleine conscience des attentes et des besoins des familles d'aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cette spécificité, justement, ce type de clients-là et de projets?
Ouais, je saurais pas trop dire pourquoi. J'ai toujours aimé l'univers de l'enfant. On y reviendra sans doute après, mais j'ai été super touchée par mes expériences pro chez des marques enfants-bébés. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce milieu-là. Et puis, j'adore aussi les enfants. Quand j'étais ado, je passais mes étés à garder des petites tribus sur l'île-Dieu. Je sais pas si tu connais.
Non.
Et j'adorais préparer des activités avec eux, inventer des histoires. Je trouve que les enfants, ils sont sans filtre. Et c'est à la fois super drôle et super touchant et du coup ça me parle vachement, donc là aujourd'hui en plus je suis devenue maman, donc ça fait d'autant plus sens pour moi. Et je me sentais encore plus légitime du coup de pouvoir me lancer sur cette niche là.
Ok, super. Bah du coup c'est ouais, on va en parler peut-être de ton parcours parce que je pense que ça explique aussi en partie comment t'es arrivée là, comme tu viens de le dire. Donc est-ce que tu veux nous parler peut-être de comment tu t'es formée et puis après tes expériences pro avant de te lancer à ton compte?
Ouais. Alors il va y avoir pas mal de choses à dire du coup parce que ça fait quand même 10 ans que je bossais en salarié. Je vais essayer d'être rapide du coup, mais en fait moi j'ai fait mes études supérieures à l'ISA à Nantes en communication visuelle. Cette orientation en communication visuelle, c'est un peu triste, mais je l'ai un peu choisie par défaut. À l'époque, c'était un non-choix parce que j'ai toujours voulu être styliste à ce moment-là, les seules grandes écoles de mode qu'il y avait, c'était à Paris. Et clairement, c'était trop loin et trop cher pour mes parents. Donc à l'époque, je vis ça un peu comme un échec. Et finalement, j'ai comme une sorte de déclic et je décide de me laisser un peu porter. Je réalise que bon, c'est pas si grave parce que je m'éclatais dans l'école où j'étais en fait. Et j'avais des super notes et que ce cursus-là, finalement... je me dis, il pourra sans doute, d'une manière ou d'une autre, m'aider à me rapprocher de ce qui me plaît vraiment, donc le milieu de la mode ou autre chose. Donc voilà.
Ouais, donc et tu t'y retrouvais quand même dans la com visuelle, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Non, franchement, c'était un peu une découverte pour moi, mais de toute façon, je suis hyper attirée par tout ce qui est créatif, les métiers artistiques et tout, donc ça me plaisait aussi énormément. Et pour mon stage de fin d'études, je décroche une place de graphiste chez Du Pareil au Même. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de prêt-à-porter. Ils font aussi de la chaussure pour les enfants et les bébés. Trop contente de moi. Et là, c'est un gros coup de cœur. Enfin, vraiment, j'aime tout, en fait, la boîte, mes collègues, mes missions. Moi, bon, ça a l'air de stagiaire, par contre. Mais je me souviendrai toujours, à mon premier jour, il y a ma maître de stage qui m'a accompagnée à mon bureau. Il y avait des vêtements partout, ça débordait. Il y avait des échantillons de matière, des tenues trop choues, plein de couleurs. Et en fait, vraiment, j'avais des papillons dans le ventre. Et je m'occupais de décliner toute l'identité de la marque pour le site internet et les boutiques. Et j'adorais ce côté multi-support. J'ai vraiment énormément appris. Et j'ai continué à bosser pour eux après en CDD. Je crois qu'en tout, j'ai dû travailler un an pour eux. Et à la suite de mon stage, j'ai voulu reprendre mes études avec une opportunité de licence dans la mode. J'ai fait une licence mode et haute technologie. Et l'idée, c'était vraiment de me rapprocher encore plus des marques de produits en gardant mes compétences de graphiste. Et donc, plus concrètement, en fait, on nous formait au métier de styliste graphiste. Voilà, donc cette année-là, j'étais en alternance chez un gros groupe de puériculture et j'aidais à la mise en place des collections. Je guettais les tendances N-2, je proposais des gammes de couleurs, je dessinais des prints pour les poussettes, pour la vaisselle pour bébé. C'était trop chouette. Je me suis éclatée aussi.
Et tu faisais déjà bien le lien entre ce que ce que tu disais, ta passion pour plutôt la mode, ton attirance en tout cas pour ce milieu-là, et le graphisme sur lequel tu t'étais formée, quoi.
Ouais, exactement. Franchement, je me suis éclatée et surtout aussi j'ai fait des. Je pense que c'est une époque où on est super jeune, voilà, à la suite des études, et on a aussi besoin d'être tenu par la main et les maîtres de stage, les mentors, parce que c'est pas forcément le maître de stage. À chaque fois, mais voilà, on fait des rencontres aussi, je pense, qui nous marquent dans ces périodes-là. Et moi, ça a été mon cas, et je pense que ça m'a guidée aussi après pour la suite à comprendre ce qui était important pour moi et tout ça. Donc, ces deux expériences-là, vraiment, c'était un peu mes expériences doudou, je dirais, pour la suite. Donc voilà, parce qu'après, j'ai fait des choses, mais moins en lien direct avec l'enfant. J'ai continué en freelance pour Dorel un petit moment et en parallèle j'ai travaillé pour différentes marques, que ce soit chez l'annonceur ou en agence. L'expérience agence, ça a pas duré très longtemps, ça a quand même duré un an je crois, mais en fait j'ai pas du tout aimé. J'ai évolué dans l'univers du luxe et pour moi ça a été la désillusion totale. C'était pas tant le job en lui-même, mais c'était plutôt l'ambiance, je dirais. C'est un milieu que j'ai trouvé super froid et un peu condescendant, en tout cas là où j'étais, et du coup ça me correspondait pas du tout.
Surtout que dans tes expériences d'avant, t'avais pas été trop dans ces ambiances-là finalement, t'étais plutôt, comme tu disais, dans un environnement plutôt bienveillant.
Ouais, pas du tout. Ouais, okay. Oui, c'est ça, et là c'était vraiment hyper brutal, j'étais un peu choquée même, je dirais, okay. Certains trucs que j'ai vus et tout, mais du coup ouais, ça me correspondait pas, donc je suis partie de cette entreprise là et mon dernier job en tant que salarié, ça a été dans une start-up parisienne qui est devenue rapidement une super marque de maroquinerie. Ça s'appelle Bobby's Paris, je sais pas si tu connais.
Ok, ouais, ça me dit quelque chose.
Et du coup, pendant 4 ans, je me suis occupée de toute la communication visuelle de la marque, que ce soit au niveau print ou digital. On organisait les shootings sur plusieurs semaines en Europe pour shooter les nouvelles collections. On faisait les communiqués de presse, les newsletters. J'étais en charge aussi des goodies pour les événements, les décors de vitrine. Mais surtout, en fait, ce qui a vraiment pris un essor important aussi, je pense, à cette époque-là pour les marques, c'était les contenus pour les réseaux sociaux. Donc, il y avait tout le contenu visuel aussi pour Instagram. Et donc, ça, c'était top aussi. Donc, voilà, je me suis éclatée aussi là-dedans.
Et donc là, t'es restée 4 ans, c'est ça ?
J'ai resté 4 ans, ouais. En fait, je suis tombée enceinte en 2019.
D'accord.
Et Et je savais déjà au moment où je suis tombée enceinte que j'allais pas revenir après la naissance de mon fils parce que je trouvais que j'avais fait le tour et que je sentais que ça allait peut-être éventuellement, enfin après c'est devenu comme une évidence, mais que j'avais besoin d'autre chose et que ça allait être une sorte de tournant pour moi aussi, cette période-là un peu, enfin... L'idée aussi de cette grossesse, c'est que depuis voilà plusieurs années, je bossais à fond sur Paris, j'enchaînais les jobs, etc. Et je me suis jamais vraiment posée sur ce que je voulais faire vraiment. Et je me suis dit que cette grossesse était aussi une occasion pour ça, en fait, pour réfléchir moi ce que j'avais envie vraiment, parce que ça faisait vraiment très longtemps que je voulais me lancer à mon compte. Mais il y avait aussi cette envie, voilà, d'apprendre, des expériences et tout. Ce côté salarié, c'était hyper important pour moi. Mais il y a toujours eu cette envie. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aussi maintenant de réfléchir là-dessus. Donc je savais que j'allais pas revenir après. Et donc mon fils est né et j'ai négocié une rupture conventionnelle. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité-là. Donc je l'ai saisie.
Ouais, c'est vrai que t'as eu de la chance, mais en plus, du coup, ça veut dire que t'as accouché en 2020, donc il y a eu aussi tout ça en même temps, le Covid, ton accouchement, un changement de boulot.
Exactement, ouais, j'ai accouché en 2019, okay. mais effectivement, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées, le Covid, etc. Donc oui, une grosse remise en question, j'ai essayé vraiment de me poser les bonnes questions. Après, vraiment, j'ai profité pleinement de mon fils et c'était une période quand même assez intense, la découverte de la parentalité, mais oui, du coup j'ai vraiment pris ce temps et en fait je suis tombée sur une formation, la formation d'Aline Bartoli qui s'appelle ouais. La BSB Academy, et à ce moment-là j'entendais pas mal une copine parler d'une formation business qu'elle suivait en anglais. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être le truc dont j'ai besoin finalement. Et j'ai un peu fait des recherches sur la formation, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. Donc, j'ai investi dans cette formation. Et franchement, ça a été la meilleure décision pour Studio Hippo finalement, parce que c'était le début de tout. Et c'est vraiment ce qui m'a donné, voilà, cette amorce, en fait, de positionnement. Ça m'a aidé à me poser les bonnes questions, à savoir ce que je voulais vraiment, avec quel type de client j'avais envie de travailler, quel type d'offres et de services j'avais vraiment envie de proposer. Parce que au-delà de juste de mon métier de graphiste, ce pourquoi j'étais bonne, en fait, vraiment mes compétences au-delà de mon métier de graphiste, c'est tout ce que je savais faire de mieux. Donc tout ça, c'était hyper important et riche dans la formation, et surtout hyper complet. Donc voilà, j'ai pris le temps de ça, j'ai pris le temps aussi de préparer tous mes supports en amont avant de lancer officiellement ma boîte, de m'inscrire sur le site de l'URSSAF.
Ok. Ah oui, t'as vraiment tout préparé en avant. Ouais, ouais, ok.
Ben, c'est vrai que franchement, ça c'est vraiment une chance quand on peut avoir l'opportunité d'avoir une rupture conventionnelle. Et moi je suis vraiment allée jusqu'au bout de mon chômage. J'avais jamais eu cette opportunité-là, donc je me suis dit là, vas-y, prends-le parce que c'est pour vraiment un projet important pour toi, etc. Donc faisons les choses bien. Et du coup, j'ai vraiment poussé jusqu'au bout pour être vraiment prête. Au moment où je m'inscrivais sur le staff, j'étais à fond. J'étais prête à accueillir mes clients et tout. Donc, ça, c'était top.
Et donc, dès que tu t'es lancée, t'étais déjà arrivée, en fait, à ce positionnement de bosser pour des marques kid-friendly et en même temps engagée. Enfin, du coup, on va peut-être en parler un peu plus, mais comment t'as choisi ça? Parce que ce que j'aime bien, c'est une niche un peu plus une autre niche. C'est-à-dire, il y a des graphistes qui vont bosser pour des marques engagées, mais toi, c'est en plus pour les marques kid. Donc, j'adore ce fait que ce soit un peu le côté entonnoir et hyper précis. Et du coup, on te ressent vraiment tout de suite ton univers. Et puis, on sent, je trouve, à travers ta com, que c'est vraiment ton truc, quoi.
C'est vraiment au fur et à mesure de la formation. Au début, en fait, j'ai toujours voulu avoir une marque pour enfants. J'ai toujours voulu avoir ma propre marque, et après avoir travaillé chez Du Pareil au Même et même Dorel, je savais que j'avais envie de faire ça. Et sauf que j'avais un milliard d'idées et en même temps, j'avais pas la bonne idée où je me disais ça vaut trop le coup de se lancer, etc. Et en plus, quand on est seul, on n'a pas forcément la même confiance que quand on monte un projet à plusieurs. Donc, du coup, j'avais toujours cette idée-là. Et puis, en faisant la formation d'Aline, je me suis juste dit, voilà, je vais me lancer en tant que freelance, en tant que graphiste. Et finalement, je crois que c'est un jour, elle avait mis en ligne un répertoire avec tous les formés, avec la description de leur métier, ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, on devait se créer des business friends, je crois, pour trouver des gens avec qui échanger, etc. Et donc, chercher un peu d'autres graphistes. Je me baladais sur le répertoire. Et en fait, à chaque fois, je bloquais sur les gens qui faisaient des métiers en rapport avec l'enfant, des accompagnements parentaux ou au niveau de l'éducation, des marques pour enfants, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je sois graphiste, mais pour les marques enfants. Parce que vraiment, à chaque fois, je m'arrêtais là-dessus comme si je buvais tous les mots. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, finalement. Mais ça a fait vraiment sens. J'ai eu comme un déclic et je me suis dit, OK, on va faire ça. Parce que j'avais vu aussi qu'il y avait des graphistes qui étaient spécialisés sur certaines niches, comme tu disais. Et en général, c'était souvent des graphistes, et ça fait surtout sens aujourd'hui par rapport aux problèmes de notre société, etc., des marques engagées, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres graphistes qui faisaient ça, et je me suis dit, ça me correspond, mais quand j'ai vu les marques pour enfants et que c'est devenu comme une évidence pour moi, je me suis dit, allez, on va là-dessus. Mais ça a été dur de le faire entendre à ma famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fermes autant des portes? T'as beaucoup d'expérience et tout, tu pourrais travailler pour plein de trucs. Pourquoi tu travailles que pour l'enfant? Et même mon mec, il me connaît par cœur et qui sait exactement... Enfin, il sait que ça me passionne, etc. Mais ouais, il était un peu réticent. Il m'a dit, ah, je sais pas si tu vas trouver des clients. Tout sympa.
Ah là là.
Ouais, c'était un peu dur. Mais franchement, j'étais sûre et certaine que ça allait marcher. Je sais pas comment expliquer, mais...
Donc, trop bien.
Je suis un peu partie loin dans la question.
Non, c'est super intéressant. Bah, du coup, j'entends que t'avais pas forcément un soutien finalement très fort au niveau de tes proches qui pourtant te connaissent bien. Mais voilà. Mais par contre, la formation, ça t'a vraiment permis de mettre le doigt sur ce qui faisait sens pour toi, quoi.
Exactement.
Et du coup, quand tu t'es lancée, donc t'avais déjà ce positionnement-là, etc. Bah, comment ça a marché pour trouver tes premiers clients?
Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup communiqué sur Instagram. Au tout début, je passais mes journées à publier sur Instagram, et j'essayais de, au-delà de, donc j'ai fait des projets fictifs parce que j'avais pas vraiment de projet dans l'univers de l'enfant à montrer sur mes dernières expériences. C'était pas ce que je faisais, et sur ce que je faisais dans mes premières années, bon, c'était clairement pas des choses que je pouvais montrer, ou en tous les cas qui reflétait l'expérience que j'avais aujourd'hui. Donc du coup, j'ai travaillé sur des projets fictifs, et j'ai travaillé mon contenu pour vraiment aider mon audience sur des sujets spécifiques, que ce soit sur l'image de marque ou la communication, etc. Et vraiment, même sur mon premier post, je crois, j'ai eu des gens qui... Enfin, j'ai eu vraiment de super retours. Et ça a marché tout de suite, en fait. J'ai eu quelques clients. Je suis allée aussi sur les salons professionnels du milieu de l'enfant.
Ah ouais, bah ouais.
Ouais. Et ça, c'était vraiment super super dur comme exercice d'aller à la rencontre
avec ton petit tas de cartes de visite.
Ah ouais, c'était vraiment vraiment dur pour moi. Franchement, c'était. Mais tu vois, d'avoir fait cette formation, etc. Ça t'aide vraiment à prendre confiance, et ça t'aide aussi à comprendre que si tu veux atteindre tes objectifs, au bout d'un moment, va falloir y aller, quoi. Ça va pas venir tout seul. Il faut que tu mettes des actions en place, et il faut que tu fasses les choses. Et donc, du coup, voilà, je me suis un peu challengée. C'était dur. Et au final, la première fois, c'est dur. La deuxième, c'est un peu moins dur. Et puis, au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile, quoi. Bon, c'est jamais très facile, mais en tous les cas, ça se fait.
Et du coup, c'est quelque chose que tu continues à faire?
Ouais, je continue à le faire. Après, je l'ai pas fait, de manière très assidue cette année, parce que j'avais pas mal de projets. Mais oui, je le fais. Et c'est vrai que ça aide même de donner une carte de visite des fois. Même si c'est pas pour travailler avec cette personne-là, ça aide à nous faire connaître, parce que les gens parlent entre eux, etc. Donc c'est aussi une question de développer son réseau, etc., qui est hyper important, quoi.
Ouais. C'est super intéressant parce que je crois que tu es une des premières qui me dit qu'elle a fait ça comme démarche d'aller dans les salons. Bah, c'est vrai que toi, tu as quand même une niche très précise, donc c'est vrai que c'est facile aussi d'identifier un salon où en gros, tu as que des potentiels clients et clientes.
Oui,
quoi.
C'est clair, ouais.
Mais, et du coup, c'est cool d'entendre aussi que c'est vrai que c'est aussi possible de faire ça encore, quoi. Alors, il y a eu le Covid où on ne pouvait plus trop, mais ça peut marcher carrément.
Oui, et je pense que vraiment, ça donne une autre dimension à l'approche, etc. Parce que moi, j'y allais pas forcément que pour ça non plus, parce que je trouve que c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe, etc. Surtout quand on est dans un milieu spécifique comme ça, de voir, bah voilà, les dernières marques qui sont arrivées, c'est quoi les tendances, c'est quoi les nouveautés, enfin, quel sujet on aborde, etc. Donc c'est un truc sur lequel j'étais habituée à travailler quand j'étais chez Dorel, parce qu'on faisait beaucoup les salons, etc. Et dans le milieu de la mode, ça se fait aussi beaucoup pour s'éveiller aux tendances, etc. Et donc du coup, c'est quelque chose que je faisais, et donc j'avais envie de faire ça, et surtout de parler directement avec les gens, d'avoir un échange en direct, qu'ils voient notre visage, qu'on voit leur visage. Enfin, ça crée aussi une autre connexion parce que Instagram, c'est un réseau qui est super humain, et souvent il y a des belles connexions, on peut échanger librement, etc. Mais c'est vrai de voir les gens en vrai, et surtout même pour les fondateurs de marque, pour les gens qui sont sur le salon, le fait qu'on se déplace et qu'on aille vers eux, ça a une vraie importance pour eux. Ils se disent, OK, elle est venue vraiment jusqu'à moi, elle a pris la peine de venir me parler. Donc voilà, même si on ne dit pas grand-chose et que voilà, il y a juste un échange assez bref.
Ouais, tu sais jamais, quoi. Au moins, tu as été là, tu crées des échanges. Et puis, quoi qu'il arrive, tu peux aussi avoir des discussions pas forcément intéressées, mais juste sympas, quoi. Échanger avec des gens qui font des marques qui t'intéressent. Enfin, et on ne sait jamais ce que ça peut donner plus tard, quoi.
Ouais, c'est tout à fait ça, et c'est au-delà juste de parler d'une collaboration possible, quoi, de dire voilà, moi je suis là et j'adore ce que vous faites et je me retrouve vraiment dans les valeurs que vous défendez avec la marque et tout. Donc voilà, si jamais il y a un besoin à un moment donné, moi je suis là, donc voilà.
Donc c'est un mix de aller rencontrer les personnes là où elles se trouvent, hein, clairement, et en personne. Et de la communication sur Instagram de manière assez régulière. Et ça te fait, en gros, venir les clients à toi, quoi. T'as pas besoin de démarcher en ligne plus que ça.
Non, franchement, j'ai démarché. Je crois que j'ai eu eu une petite semaine de creux l'année dernière. Je me suis dit, OK, ne gâchons pas cette semaine. Je me suis un peu challengée. Je me suis dit, OK, je vais démarcher. Je me suis fait une liste d'entreprises que j'avais envie de démarcher, etc. Donc, j'ai envoyé des mails et je l'ai fait une fois. Et c'est tout, quoi. Et ça m'a apporté un projet qui était super chouette. Mais vraiment, la majorité de mes clients, c'est Instagram, quoi.
OK, mais quand même, quand tu t'es fait une session de démarchage pendant une semaine, tu as eu au final un client. Donc, ça marche aussi.
Exactement. Ah oui, ça marche. Ça marche. Et surtout, voilà, c'est en injectant un mail qui soit personnalisé, qui montre pourquoi on a envie de travailler pour la marque, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien, quoi.
OK, trop bien. Et du coup, donc ça veut dire que tout ça marche plutôt pas mal depuis ton lancement. Est-ce que tu travailles toute seule ou est-ce que tu délègues une partie de ton activité? Comment ça fonctionne derrière les coulisses?
Alors, moi, je travaille toute seule. Je fais toute seule. En fait, mes expériences passées, c'est vrai que je faisais beaucoup de 360. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait à la fois... du styliste graphisme, j'ai fait des vitrines de magasins, enfin j'ai fait vraiment plein de trucs, je suis un peu une touche à tout, donc ça me dérange pas de tout faire, et même sur les aspects peut-être un peu plus commercial ou même la compta, pour l'instant ça me demande pas de faire appel à quelqu'un, mais j'aime bien. Et non, je me fais pas accompagner. Je me dis peut-être prendre un stagiaire prochainement, mais pour l'instant, je préfère continuer à développer le studio comme ça. Et après, là, je suis en train de vraiment réfléchir à faire évoluer le studio sur quelque chose de plus grand et plus complet pour pas forcément déléguer certaines choses, mais en tous les cas me faire accompagner un peu comme une team avec d'autres expertises qui sont assez complémentaires de la mienne.
Ok, parce que tu sens là avec les clients que tu as jusqu'ici qu'il y a une demande aussi pour d'autres compétences qui pourraient te faire confiance pour ramener des équipes, quoi.
Oui, exactement. Ben en fait, je travaille déjà pas mal avec des photographes parce que je propose dans mes accompagnements un accompagnement au shooting photo, parce que ce que je rappelle sans cesse, c'est que moi je suis designer de marque, le logo, les éléments graphiques et tout, c'est super important, les couleurs, les typos, mais il y a vraiment pas que ça, c'est une infime partie de l'image de marque. Et donc le wording, la façon dont on parle, les mots qu'on utilise pour s'adresser aux clients qu'on vise, etc. Les images aussi de nos produits, mais c'est tellement essentiel. Et aujourd'hui, surtout dans un milieu où on évolue avec les réseaux sociaux, avec où l'image elle est omniprésente, et encore plus maintenant, il y a la vidéo, donc c'est encore autre chose. Mais c'est hyper important. Donc le logo, finalement, c'est pas, je pense, l'essentiel. Loin de là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner mes clients. Et forcément, bah, moi, je suis pas photographe, je suis pas copywriter. C'est des choses que j'ai fait et que j'aime bien faire, surtout le copywriting, mais c'est pas mon cœur de métier. C'est pas ma zone de génie. Donc, bah, j'ai envie aujourd'hui de me faire accompagner, de collaborer avec des personnes dont c'est vraiment le métier pour proposer, bah, une expérience qui soit encore plus riche et beaucoup plus globale, à mes clients. Toujours après, sous la supervision, tu vois, de cet aspect direction artistique qui je pense, les aide et les rassure aussi.
Ouais, bien sûr. Bah après, c'est vrai aussi que tu travailles sous le nom Studio Hippo et pas sous ton propre nom. Donc, il y a aussi toujours un peu cette notion que potentiellement, vous pouvez être plusieurs, ou en tout cas que tu es capable de réunir du monde pour un projet. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, on peut parler, si tu veux, du choix du nom.
Oui, alors le choix du nom, c'était hyper compliqué. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Pour trouver un nom de domaine dispo sur un mot qui soit assez court, qui parle, etc., c'était compliqué. Et finalement, je suis arrivée à Studio Hippo parce que c'est la déesse Hippopotame Thuéris, qui est une déesse de l'Égypte ancienne, qui est protectrice des femmes et des enfants.
Ouais, ça a du sens quand même.
Ça a du sens quand même, mais bon, faut aller chercher quand même assez loin. Mais ouais, du coup, j'aimais bien parce que c'était un mot hyper court. Donc j'ai modifié l'orthographe, etc. Et ouais, j'aime bien ce côté un peu rebondi, etc. Donc ça me parlait bien, mais bon, c'était compliqué, hein, de trouver un nom. Et oui, j'avais pas envie que ça soit forcément mon nom parce que je sais pas pourquoi en fait, mais ça me plaisait de trouver un nom un peu comme une marque en fait, un peu comme la manière dont j'accompagne mes clients. Donc voilà.
Oui, puis c'est vrai que tu disais aussi, j'ai lu sur ton site, je crois, que t'es graphiste, mais tu fais aussi de la stratégie. Enfin, il y a un côté aussi qui donne un peu plus d'ampleur peut-être quand tu t'appelles studio que juste ton nom et
oui, je
et
pense
que tu mets graphiste. Enfin, je sais pas. Après, ça dépend vraiment des personnes, tu vois. Mais
ouais, pour les gens, pour les potentiels clients, il y a ce côté-là du freelance en fait. Qui est assez réducteur, je trouve, souvent. On a l'impression que le freelance, il est sur une expertise vraiment hyper précise et qu'on va pas pouvoir avoir une expérience globale avec lui, ou en tous les cas que ça va s'arrêter sur une mini mission et que après voilà, la collaboration s'arrête et après on continue avec quelqu'un d'autre, etc. Donc moi, j'avais vraiment envie de proposer une vraie expérience. Quelque chose qui soit hyper complet, donc je pense que ça fait sens par rapport à ça, et surtout dans cette potentielle évolution que j'ai envie de donner au studio, je pense que ça peut être bien.
Ok, et du coup, donc c'est vrai que tu me disais que tu t'arrivais bien à attirer les clients qui t'intéressent, et sur la partie, je me demandais, sur la partie engagée, est-ce que ça parle aussi beaucoup aux marques kids? Enfin, comment tu intègres ça en plus du fait que tu te spécialises sur les marques enfants?
Alors, je pense que j'ai jamais vu de contact de marques qui n'ont pas un pan qui soit éthique dans leur projet. Déjà, c'est spécifié et sur mon site et sur mon compte Instagram que c'est quelque chose qui est important pour moi. J'explique pourquoi, etc. Donc voilà, je pense que les gens, ils vont pas forcément venir vers moi si ils savent que leur projet, leur collection, elles sont fabriquées en Chine dans des conditions désastreuses. Donc je pense que ça fait sens aussi. Enfin, c'est normal que j'attire ce type de personnes-là. Et après, dans les marques éthiques, il y a énormément de projets qui sont, bah, comme je disais, bienveillants, tournés vers le bien-être, que ce soit des parents, des enfants. Souvent, en fait, mes clients, c'est des mamans. C'est des femmes et c'est aussi des mamans. C'est un peu, elles ont un peu la même histoire que moi. Elles ont créé leur marque, tu vois, après avoir donné naissance à leur premier, leur deuxième enfant. Et en fait, elles ont une vraie prise de conscience et elles ont vraiment envie de développer un projet qui ait du sens. Et tout naturellement, en fait, c'est des projets, voilà, qui sont tournés vers l'éco-responsabilité, le bien-être, etc. Donc, en général, en tous les cas, j'ai jamais eu de demande de projet autre que ça, quoi.
Ah, c'est drôle. Souvent, c'est vrai que la parentalité peut être un déclic. Le fait de mettre au monde une personne et de savoir que tu lui laisses une planète. Enfin, c'est cette personne-là qui va rester dans les années qui arrivent. Ça peut être un déclic écologique, entre autres, mais.
Ouais, c'est exactement.
C'est intéressant, ouais. C'est ce qui s'est passé pour toi, du coup, t'as eu aussi un déclic à ce moment-là?
Oui, et ben notamment, c'est ça en fait. C'est quand je te disais que j'avais vraiment envie de créer ma marque, etc. Il y avait un vrai blocage là-dessus où je me disais, mais si je crée une marque de vêtements, par exemple, j'avais pas envie de produire quelque chose en plus et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et là, vraiment. Avec cette approche-là, avec mes clients, etc., je sais que ça a vraiment du sens et ça me correspond pleinement. Donc, c'est sûr.
Est-ce que tu veux nous raconter ton plus gros échec depuis que tu t'es lancée à ton compte ?
Ouais. J'ai pas vraiment de grand échec. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais. Ouais, non, j'ai pas vraiment de grands échecs, car du coup, en fait, j'ai eu la chance de me former tout de suite, de pouvoir investir dans des formations qui m'ont vraiment aidé là-dessus. Et je pense que avec ça, j'ai évité pas mal de soucis ou de potentielles erreurs que j'aurais pu rencontrer. Par contre, là aujourd'hui, où j'ai vraiment beaucoup de mal et au quotidien, c'est compliqué, c'est justement de trouver cet équilibre un peu pro. Et perso que j'ai envie d'atteindre, voilà, avec ma vie de maman, etc., de famille, pour à la fois m'éclater dans mon boulot et savoir aussi m'arrêter et dire ok, là c'est on arrête et c'est le moment où on passe un temps un peu déconnecté. Déconnecté, c'est super dur pour moi, surtout c'est assez récent le studio, donc ouais, encore aujourd'hui là, des fois je me réveille en pleine nuit, j'ai des idées et tout, c'est c'est compliqué.
C'est fatigant. C'est-à-dire que tu travailles déjà la nuit quand t'as un enfant en bas âge. Alors
ouais, c'est ça. J'étais bien entraînée, donc bon, finalement, je survis assez bien. Mais oui, c'est sûr que ça occupe pas mal l'esprit quand même quand on a des objectifs en tête, etc. Donc,
C'est marrant parce que je crois que ça arrive souvent aussi que, pareil, que la maternité soit un déclic professionnel. Enfin, j'ai lu beaucoup ça, que pour pas mal de femmes, c'était l'occasion d'un changement professionnel, etc. Mais c'est intéressant que toi, tu l'aies fait parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent trouver ça flippant de tout commencer en même temps. Et donc, toi, t'as vraiment tout fait en même temps. Et du coup, t'as dû à la fois trouver ton équilibre, j'imagine, en étant maman. Enfin, déjà, d'un point de vue personnel, c'est assez énorme. Et du coup, professionnel, donc je comprends que l'équilibre pro-perso, tout ça, ça soit un peu compliqué à gérer quand t'as tout lancé en même temps en plus.
Oui, c'est vrai. Et tu vois, finalement, le fait d'être devenue maman, et moi, je le vois avec mes clientes quand je les accompagne, etc. Parce que quand je fais la stratégie, il y a vraiment un échange qui est assez profond et on va assez loin et c'est super touchant. Mais du coup, on voit des choses un peu ressurgir, tout ça. Mais ouais, quand on devient maman, il y a vraiment, on se sent vraiment beaucoup plus forte. Et finalement, je me dis, pendant toutes ces années, j'avais envie de faire ça, mais bon, j'osais pas, ou alors je me sentais pas forcément capable, ou je me disais, quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose de mieux, et en fait, quand on devient parent, on est confronté à des trucs, mais magiques et à la fois, genre, quand même assez cauchemardesques. Et donc, du coup, on se dit, si je me lance à mon compte, bon, déjà, il y a quand même une sorte de transition entre le moment où, on accouche et cette période où on se pose la question de reprendre son travail ou pas. Donc, se lancer à son compte, c'est quand même quelque chose qui est assez doux et donc c'est assez rassurant. Ouais, c'était une suite logique et je me suis dit bah on teste, on verra. Si ça marche pas, ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai déménagé en province parce qu'il y a eu le Covid, tout ça. Donc il y a eu pas seulement la question de remise en question professionnelle, c'était aussi du bien-être, voilà, là où on voulait vivre avec notre fils, etc. Donc on a déménagé et donc c'était aussi une question de pouvoir continuer à faire mon métier en province, parce qu'à Paris il y a plein de postes de graphiste, de directrice artistique et tout ça, mais en province c'est le choix, il est un peu réduit. Donc c'était aussi ça l'idée de me lancer en freelance. Donc en fait, je passais pas forcément à côté de quelque chose parce que j'avais pas un job qui m'attendait au moment où je quittais mon emploi. J'avais pas un autre job qui m'attendait en province, donc c'était aussi un test. Et puis voilà.
Ok, cool. Donc pas d'énorme échec, si ce n'est cette recherche, disons constante, d'un équilibre.
C'est ça. Ouais.
Un équilibre de vie, on va dire.
Le gros challenge. Mais ouais, non, pas d'échec particulier pour l'instant, en tous les cas.
Mais en tout cas, tu dirais que actuellement c'est vraiment ça sur lequel tu as besoin de travailler, enfin que tu n'arrives pas forcément à déconnecter, etc.
Ouais.
Ok. Et ta plus grande fierté, ta plus belle réussite depuis que tu t'es mise à ton compte ?
Franchement. Je sais pas s'il y a une seule belle réussite, mais en tous les cas, moi, voir les projets de mes clients prendre vie avec l'identité de marque que j'ai créée pour eux et faire sens auprès des familles, etc., des médias même, ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Enfin, c'est vraiment la récompense pour moi. Et il y a un très beau projet là sur lequel j'ai travaillé, que j'ai commencé à travailler pour eux début d'année dernière. C'est Maisonnée. C'est un lieu parisien qui regroupe des espaces de consultation, de soins et d'ateliers parents-bébés. Et ici, voilà, on parle pas juste de vendre des produits. On parle de vraiment faire du bien aux familles, de simplifier leur quotidien avec une expérience vraiment qui soit pensée pour eux. Et travailler sur des projets comme ça et voir que ça prend tout de suite, que ça fait tout de suite sens pour beaucoup de gens, c'est hyper hyper gratifiant, quoi. Et au-delà de ça, il y a aussi vraiment dans l'accompagnement que je propose de voir mes clients prendre confiance au fur et à mesure de l'accompagnement, être fiers de leur projet, comprendre vraiment et réaliser le potentiel de leur projet. Souvent, c'est assez, ça me surprend toujours ce travail de stratégie, mais de leur faire prendre conscience que, ok, il y a leur idée et elle est souvent très très bonne, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire autour de cette idée, comment ils vont lui donner vie, comment ils vont en parler au quotidien, etc. Et ça leur donne beaucoup de puissance et de force et souvent ils sont eux comme moi, on est assez touchés de ça à la fin de l'accompagnement, donc ça c'est aussi quelque chose qui me rend hyper fière, quoi.
Ah ouais, je te comprends tellement. C'est vrai que moi, c'est aussi une des parties que je préfère dans mon métier. Enfin, c'est un peu la partie cachée ou qu'on n'imagine pas forcément quand on va engager une directrice artistique. Mais moi aussi, c'est ce que j'adore quand je sens que mes clientes, parce que c'est aussi beaucoup des femmes, que mes clientes prennent confiance de ouf en leur projet et qu'elles ont des déclics et que ça leur
donne, oui,
tu sens
ça.
Quoi, que ça leur donne, oui, de la force. Et c'est souvent juste le fait aussi d'échanger, tu vois, avec quelqu'un qui les comprenne et tout. Enfin, je te rejoins là-dessus, je trouve que c'est vraiment hyper précieux.
Ouais, et ça, c'est hyper, c'est quelque chose dont les gens, ils ont pas conscience. Et le métier de graphiste, je trouve qu'il est assez dévalorisé là, sur ce sujet-là. Mais vraiment, c'est pas juste de l'esthétique. Il y a vraiment une approche limite, je sais pas si on peut dire psychologique, mais ça va beaucoup plus loin que ce que les gens ils peuvent s'imaginer. Et ça c'est hyper important, quoi.
Je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que c'est difficile de mettre le doigt dessus ou de bien l'exprimer parce qu'en même temps, on peut pas dire qu'on soit légitime sur cette partie-là, comme tu dis, de psychologie, mais il y a clairement quelque chose qui se joue quand t'arrives à être vraiment à l'écoute de tes clientes et puis surtout quand t'es, enfin, comme toi, quand t'es vraiment portée par leur projet aussi, ça va bien au-delà d'être juste une graphiste qui fait un logo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors du coup, ça rejoint ma prochaine question. En fait, je pense que tu viens de nous le dire un peu, c'est qu'est-ce que tu préfères dans ton activité aujourd'hui ? C'est ce que tu viens de nous raconter, j'imagine.
Ouais, mais en vrai, j'aime bien tout, franchement. Et j'adore... franchement, il n'y a pas de truc que j'aime pas. Et quand j'étais salariée, même si j'adorais ce que je faisais, Des fois, j'avais vraiment pas envie d'aller au travail et tout le matin. C'était dur pour moi. Ce côté un peu aussi hiérarchie, tout ça, des fois, c'était un peu compliqué. Et je pense que bah, ça reflète assez bien le fait que j'étais faite pour me lancer aussi à ce moment-là en freelance ou en tous les cas à mon compte. Mais oui, j'aime tout faire. Et maintenant, je me lève plus le matin en me disant j'ai pas envie d'aller travailler. Franchement, j'ai tout le temps trop hâte d'aller travailler. Et limite, c'est un peu culpabilisant. Des fois, je me dis oh là là, mais... Parce que j'adore mon fils, j'aime mon mec et tout, mais en vrai, des fois, je pense qu'au travail, et c'est horrible parce que ça m'obsède, mais j'aime tellement ce que je fais que ouais, j'y pense tout le temps, quoi. Voilà.
Ça boucle la boucle sur ton problème de déconnexion.
C'est ça. Oui, oui. Il faut peut-être que j'aille consulter, d'ailleurs. C'est un peu inquiétant. Mais non, je pense aussi que c'est une question où c'est les débuts, donc on est un peu euphorique aussi. Moi, j'ai pas forcément hyper, hyper confiance en moi. Et de voir vraiment que son travail plaît, de voir que, voilà, on a des clients et tout, ça, c'est quand même quelque chose d'assez... En tous les cas, pour moi, c'est assez ouf de me dire que je suis toute seule, que j'ai ma petite entreprise et qu'il y a des gens qui ont envie de travailler avec moi. C'est trop bien, quoi. Donc, du coup, pour ça, je me sens hyper chanceuse. Et en même temps, c'est clair que j'ai un peu bossé aussi pour ça. Mais ouais.
Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, à des entrepreneuses créatives qui cherchent justement à mettre du sens dans leur métier, qu'est-ce que tu donnerais ?
Moi je dirais n'hésitez pas à vous entourer, que ce soit d'autres personnes qui font le même métier que vous, à échanger, que ce soit des potentiels clients avec lesquels vous avez envie de travailler mais vous osez pas les aborder, etc. Enfin, faut vraiment pas hésiter. Les gens qui sont même derrière des grandes marques et tout, c'est des gens comme vous et moi, en fait c'est des gens qui sont normaux et des fois ils ont vraiment pas souvent le temps de répondre, mais faut pas hésiter à relancer, etc. Et ouais, s'entourer aussi, quand je dis s'entourer, c'est prendre du temps pour se poser les bonnes questions, pour investir sur soi et voilà, s'entourer avec éventuellement des formations, se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de formations en ligne qui peuvent vous aider à faire ce petit twist, que ce soit au niveau stratégie ou mindset. Et qui peuvent voilà vous aider à passer au step supérieur ou en tous les cas à vraiment comprendre ce qui peut vous faire aimer pleinement ce que vous faites au quotidien, quoi, et ce en quoi vous êtes différent aussi, parce que je pense que c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui. Il y a tellement de graphistes et on s'en rend d'autant plus compte, je trouve, sur Instagram, parce que on arrive assez bien à fouiller, à voir des posts passés, d'autres graphistes, etc. Qu'il y a énormément de personnes sur le marché et c'est d'autant plus important de comprendre en quoi vous êtes différent et ce que vous allez pouvoir apporter de différent aussi dans vos collaborations.
Ouais. Et du coup, donc toi, tu nous l'as dit au début de l'épisode que tu avais investi dans la formation de Aline, la BSB Academy, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que tu en as d'autres dont tu veux nous parler qui ont été des bons investissements pour toi ?
Ouais, alors j'ai fait deux autres formations depuis. J'ai fait la formation de Julie de Studio KI, qui s'appelle The Design Flow, je crois.
Ouais.
qui est une super formation, franchement, pour les graphistes, parce que à la suite de la BSB Academy, franchement, c'est une formation géniale, hyper complète. C'est un gros investissement, mais pour ce que ça peut amener après comme résultat, c'est moi je le conseille à tout le monde. Et The Design Show, c'est vraiment plus dédié au métier de graphiste. Donc ça m'a vraiment aidé dans mon expérience client et plus particulièrement dans mes process pour proposer une expérience qui soit hyper fluide avec les clients et tout, pour me faire aussi gagner du temps. Donc ça c'était trop chouette. Et je me suis aussi récemment formée au droit d'auteur. Gros sujet.
Sexy.
Ouais, ben franchement, je l'avais un peu fait quand j'étais facturée des droits d'auteur. Je l'avais un peu fait quand je travaillais pour Dorel en freelance. Et sans vraiment comprendre vraiment les enjeux et pourquoi c'était important, etc. Et là, vraiment, je trouvais ça important parce que je l'ai facturé à mes clients sur les premières identités de marque que j'ai créées, etc. Mais sans vraiment pouvoir expliquer clairement ce que c'est avec les bons mots et pourquoi ça les protège eux et pourquoi c'est important pour moi aussi de leur proposer ça dans un cadre voilà qui soit légal, etc. Donc ça c'était une formation qui était super intéressante. Bon après c'est un peu c'est pas aussi comment je peux dire pas ludique mais c'est pas
oui, c'est pas particulièrement ludique les droits d'auteur.
Et c'est quelque chose qui est voilà c'est un gros pavé quoi mais c'était important pour moi de le faire ouais.
OK super bah merci pour ces conseils et bah dernière chose est-ce que tu as des actus ou des choses qui vont se passer là dans les mois les années qui arrivent et dont tu veux nous parler?
Alors j'en suis pas encore à réfléchir dans les années qui arrivent. Mais pour moi, le plus gros challenge là dans les mois à venir, c'est de pouvoir me bloquer du temps pour voilà travailler sur cette évolution du studio parce que j'ai envie voilà vraiment de passer à un step supérieur et du coup gros chantier sur la refonte du site éventuellement aussi ouais mon identité visuelle ça je vais voir et puis voilà aussi plus communiquer sur LinkedIn ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que je fais pas assez ou pas du tout même je dirais mais ça attire vraiment pas aussi la même cible je trouve LinkedIn que Instagram et là ouais je pense que j'ai pris quand même pas mal confiance depuis un an et demi et j'ai envie de passer ce cap là donc on va essayer de faire ça pour les prochains mois.
Ok, bon bah on va. Enfin moi je vais suivre ça de près puis je vais mettre dans la description de l'épisode ton compte Instagram pour te suivre, ouais, pour suivre tes aventures et puis l'adresse de ton site aussi.
Génial, trop bien.
Super. Bah merci beaucoup Delphine d'être venue partager tout ça avec nous.
Bah merci beaucoup à toi de m'avoir écoutée.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Aligné, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, mais aussi en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, @dorothecadio, pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.